un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dybali le premier à sauter dans sa roue. Franchlec est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Un épisode forcément un peu particulier. Déjà, eh bien, nous n'opérons pas dans notre tranche d'heure et de journée habituelle. Donc, c'est pas vraiment une sortie du dimanche, mais une sortie exceptionnelle de lundi. Et puis, ben, comme vous savez forcément, chers auditeurs, avec une actualité très lourde dominée par le coronavirus, eh bien, on a un peu bousculé nous-mêmes notre emploi du temps et le contenu de cette émission. On va surtout se consacrer à la dernière course qui s'est déroulée, à savoir le Paris-Nice, et puis peut-être après tenter de nous projeter un peu sur l'avenir de la saison, savoir ce que... éventuellement bien, ce qui peut nous attendre pour la suite malgré un contexte un peu difficile. Voilà. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve Théo.
Bonsoir tout le monde.
Et également Greg.
Bonsoir tout le monde. On va essayer un peu de se changer les idées pendant quelques minutes.
Ouais, voilà.
Vu exactement. L'actualité.
Il ne faut pas oublier de se changer les idées. C'est aussi important pour... eh bien, pouvoir tenir durant cette période particulière. On peut dire d'ailleurs que, par rapport à ça, la course qui s'est déroulée cette semaine a été plutôt plaisante à voir dans l'ensemble. Je ne sais pas si c'est votre avis. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par ça, hein, vos impressions générales sur la course, Théo ?
Ouais, c'était une très belle course. On n'a quasiment eu aucune étape... banal, même l'étape qui se termine par le sprint avec le plus gros comité, il y a eu du suspense jusqu'au dernier moment parce qu'on a cru que Tratnik allait réussir à résister au retour du peloton. Les coureurs ont fait la course aussi, il n'y a aucune étape qui a été décevante. Malgré tout, on ne peut pas dire que c'est une sorte de bulle qui nous protégeait de l'actualité parce qu'il y a eu des atermoiements au fur et à mesure de la semaine, on ne savait pas jusqu'où la course allait pouvoir aller. Il y a pas mal de coureurs qui ont quitté la course. Il y a une équipe, Bahrain McLaren, qui a quitté la course à cause du coronavirus. Mais c'était quand même genre une belle manière de, peut-être pas de finir la saison, mais de finir la première partie de saison. Et on a eu du beau cyclisme et du cyclisme offensif.
Est-ce que c'est aussi ton impression, Greg ?
C'est vrai, on a eu des étapes globalement mouvementées. On a vu des bordures, de la pluie parfois, enfin une étape difficile, faut aussi rendre hommage aux coureurs, hein, parce que ça a commencé dès le dimanche avec les premiers jours étaient très compliqués. On a vu aussi un beau numéro de Quintana sur la fin, donc c'est vrai, mais après l'ambiance était quand même très particulière avec beaucoup d'équipes absentes, avec pas mal de favoris, et voilà, c'est vrai que ces abandons et ces incertitudes était justifié, puis sa dernière étape a été annulée. Donc voilà, c'est vrai que c'est une impression très particulière qu'a laissé cette course. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu ce contexte, c'est vrai qu'on aurait presque, je pense qu'hier, on aurait été très enthousiaste s'il n'y avait pas eu un contexte aussi pesant et qui a aussi pesé sur la course.
Oui. Alors, je rappelle rapidement le classement, du moins le podium, victoire de Maximilian Charman devant Tige Benoot et Sergio Higuita. Alors, effectivement, ça fait partie d'ailleurs des coureurs qui sont plus mis en vue, on va dire, quand les choses sérieuses commençaient. On a vu une équipe Sunweb aussi globalement très convaincante. Très présente autour de leur leader, en tout cas quand il le fallait. Globalement, peut-être aussi, on peut dire, néanmoins, peu de surprises finalement sur les principaux animateurs de cette course, c'est-à-dire ceux qu'on soupçonnait jouer les premiers plans, ont globalement répondu présent. Alors, est-ce que Théo, tu veux peut-être revenir plus sur l'un d'eux ou souligner déjà ses performances générales?
Bon, on peut parler de Maximilian Charman et aussi enfin, dire que enfin, généralement Paris-Nice c'est aussi une manière d'analyser les formes pour voir ce qui va se passer dans le reste de la saison. Et là je pense qu'on va pas avoir besoin de développer sur ça. Mais ouais, Charman a fait une très belle course qui rappelle un peu, enfin, qui pouvait rappeler la forme qu'il avait au Pays Basque l'an dernier, mais bon, ça a été beaucoup répété pendant la semaine. La grande inconnue c'était de savoir si il pouvait tenir sur la Colmian et s'il pouvait tenir l'enchaînement des étapes, l'enchaînement des jours. Il a tenu, c'était une montée qui semblait plutôt pouvoir lui correspondre. Bon, on sait que c'est pas un grimpeur, mais qu'il a des bonnes qualités. C'est une montée assez régulière, avec des pourcentages pas trop importants, donc c'est pas étonnant de voir tenir. Malgré tout, il semblait bien bien grincer des dents. Si la partie difficile de la côte avait été un peu plus longue, peut-être que Tiche Benoît aurait réussi à passer devant. Et bon, je sais que ça a été un peu un élément polémique de la semaine, mais si effectivement on lui avait déboursé le temps qu'il avait perdu sur sa chute lors de l'arrivée à Apt la veille, il aurait perdu la course. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce reclassement?
Moi, il me pose problème. J'ai l'impression que la règle est un peu à géométrie variable, qu'on ne sait pas vraiment toujours comment dire, tenir compte du relief des derniers kilomètres de l'étape pour se décider là-dessus. Si le final de l'étape est tout plat, je n'y trouve pas grand-chose à redire. Mais dans des contextes où l'étape est plus accidentée, par contre, j'ai toujours du mal avec cette règle des 3 km. Voilà, moi ça me gêne un peu. Après, on va dire, vu le contexte, tout cela est vraiment très très secondaire. Et voilà, après, mais sinon, je pense il y aurait eu beaucoup plus de polémiques par exemple sur le forum par rapport à ça. Ton avis
Ouais,
là-dessus, Greg?
oui, c'est toujours une règle hein, qui fait débat, et particulièrement quand, comme tu l'as dit, l'étape n'est pas toute plate. C'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais ce que je disais, il y a tellement une histoire particulière finalement que bon, le débat n'a pas vraiment eu lieu. Hein, il y en a eu quelques questions sur le forum, mais après, voilà, c'est le risque avec cette règle finalement des 3 derniers kilomètres laissés à la discrétion, soit c'est le jury des commissaires. Finalement, on est appelé, voilà, ça peut parfois paraître arbitraire. Bon, personnellement, je comprends la décision sur le coup, mais après, je sais pas, est-ce que c'était clair dès le début que cette étape était concernée ou pas?
Bah, je suis pour te répondre, ouais, désolé de te couper, je suis allé regarder le règlement UCI. Et c'est vrai que la règle est mal faite. J'allais dire quelque chose de vulgaire, mais si je reprends les mots, est considéré comme un incident tout événement indépendant des propres capacités physiques du coureur. Et la règle spécifie chute, problème mécanique, crevaison. Ça pose question parce qu'une chute, ça peut être, enfin, ça dépend des capacités physiques des coureurs. Et ça met aussi, ça rappelle que pour qu'un coureur puisse être classé, il faut qu'il ait eu la volonté de se maintenir. Donc c'est des choses qui sont vraiment subjectives, et l'article rappelle bien que toute décision relative à cet article doit être rendue par le collège des commissaires de manière indépendante. Donc c'est une manière de se déporter. En fait, c'est les commissaires qui prennent la décision et on n'a pas besoin, enfin il faut pas revenir dessus. Et le seul truc, c'est que cette règle est valable tout le temps, sauf dans le cas spécifique d'une arrivée au sommet. Et là, c'est à l'organisateur de définir ce qu'est une arrivée au sommet. Et ça, par contre, quand vous allez regarder le règlement d'une course, vous trouvez toujours dans quelles étapes dans quelles étapes on peut appliquer cette règle des 3 km. Donc, enfin, Charman devait le savoir, directeur sportif devait le savoir. Et en fait, il faut polémiquer avant. Et on pourrait peut-être se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas laisser vraiment les organisateurs choisir toutes les étapes et sortir cette idée d'arriver au sommet? Parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens si on fait une arrivée après une descente de 3 km. Et que quelqu'un chute à 1 km de
Chute,
l'arrivée d'un
crevaison, peu
sommet,
importe, oui.
ça n'a pas forcément de sens de les reclasser, quoi.
Oui, puis ça peut peut-être aussi amener certains malins un peu à jouer avec cette règle, hein, parce que Sherman, dans ses
Simuler,
déclarations,
oui.
voilà, il a reconnu
Simuler, tout à
lui-même
fait.
qu'il est tombé parce qu'il a un peu manqué de lucidité sur le coup, ce qui quand même du coup interroge sur sa capacité à pouvoir tenir avec le groupe avec lequel il était jusqu'au bout, hein, après manquer de lucidité, donc peut-être qu'il aurait pu lâcher quelques secondes finalement sur la fin. Et donc on peut imaginer effectivement, on va dire, quelqu'un un peu qui joue avec les règles et qui du coup sur les derniers kilomètres fait exprès de tomber parce qu'il se sent un peu faible au niveau des guibolles. Hein, c'est aussi simple que ça et ce serait vraiment dommageable pour l'image de la course et de ce sport en général. Voilà, c'est surtout ce genre de problème que ça peut conduire et c'est pour ça que voilà, moi ça m'a fait un peu tiquer de nouveau cette règle. Enfin, bref, passons maintenant sur peut-être aussi les différents vainqueurs d'étapes auxquels on a eu droit durant cette course. Hein, ben, j'ai envie de dire, ce qu'on remarque déjà prime abord, c'est que encore une fois, Paris-Nice, si on n'en a pas un porte-drapeau comme Alaphilippe qui est en forme, eh ben, c'est toujours un peu difficile pour les Français. On retrouve de beaux vainqueurs dans l'ensemble, c'est vrai. Mais, encore une fois, pas de vainqueur français, ni d'étape, ni présent aux premières loges dans le classement général. Théo.
Alors, bon, si tu veux me faire parler des Français, je dirais qu'effectivement, on n'a pas de victoire d'étape, mais le bilan est globalement positif.
Ouais, malgré tout.
Parce que quand on arrive sur la course, on a un Thibaut Pinot qui est un peu affolé par son début de saison, qui dit lui-même qu'il n'a pas beaucoup de sensations. Bon, on sait que c'est une spécialité de Pinot de paniquer un peu et de pas forcément avoir confiance en lui. Bon, au final, on regarde sa course, il a progressé au fil des jours, il s'est très bien comporté dans les bordures et son équipe, particulièrement Stefan Kung. Mais je mentionnerai aussi le rôle de Tobias Ludvigsson, l'a vraiment aidé. Son chrono est pas fantastique, mais quand même relativement correct. Et sur la dernière arrivée, bah, il termine troisième. Il n'arrive pas à tenir Quintana, mais bon, je pense qu'on en reparlera. Quintana était clairement au-dessus. Il suit pas l'attaque de Benoît, mais après, derrière, c'est Gaël plus actif, il gagne le sprint. Donc, clairement, il était dans les temps. Et si la saison avait continué, ben, il aurait été très bien sur son prochain objectif et il aurait pu être en confiance pour le Tour de France. Du côté de Bardet, ben, il venait pas vraiment, enfin, il s'y attendait pas à venir sur la course. Il avait pas l'air très motivé. Malgré tout, il est parti devant. Bon, il avait perdu la course sur un coup de, sur une chute, ouais, sur une
C'est
chute
ça, lors de la
qui a suivi des
bordure.
bordures, ouais. Bon, il s'est montré devant, il n'avait pas un super super niveau, mais est-ce qu'il avait la tête à ça? Je sais pas. Et Alaphilippe, et après je terminerai mon tunnel, Alaphilippe, il a toujours pas retrouvé le punch qu'il avait l'an dernier, mais on l'a quand même vu être acteur, alors que sur les dernières courses, françaises, notamment les boucles de Romardèche, il était vraiment très très loin d'être à ce niveau, et donc il semblait quand même monter en puissance, donc je dirais que quand même globalement le bilan des Français. Et plutôt bon, on peut mentionner Rudy Mollard aussi qui fait un top 10 au général, c'est bien pour un coureur comme lui.
Oui, il est souvent en forme à cette époque de l'année. Greg, toi, ton impression générale sur les Français?
Peut-être une légère déception, mais après la course a été tellement agitée, il y a eu tellement d'événements de course, des crevaisons, les bordures, etc., que finalement c'est toujours dur de tirer un bilan d'ensemble. Et après, voilà, il y a aussi le fait que ça, enfin, on ne sait pas. On guette toujours un peu l'état de forme des coureurs parce qu'il y a des voilà, ils ont d'autres objectifs dans la saison. Mais là, comme c'est vrai qu'on risque de pas avoir de course avant un moment, l'analyse est totalement différente. Je mettrais, enfin, j'irais juste un mot sur Fabien Doubet
Oui.
qui fait 11e au général et je pense que pas grand monde l'attendait à ce niveau-là et à cette place-là.
Oui,
Donc
il a été régulier, il s'est accroché à chaque fois et il a un peu bénéficié aussi des circonstances particulières de la course, forcément, mais c'est vrai qu'il a répondu présent.
voilà, donc voilà. Si on veut parler français, peut-être voilà, je citerai son nom en plus de tout ce qu'a dit Théo.
Alors lors de nos pronos la semaine dernière, on avait tous vu quand même Quintana au minimum sur le podium, si ce n'est vainqueur. On peut dire que dans les jambes, il avait sûrement la victoire à sa portée. Lui aussi, en fait, a principalement perdu la course lors de l'étape des bordures. Mais il a encore une fois montré que pour l'instant, enfin, en tout cas en ce début de saison, sur les longues montées, celles qu'il affectionne, il était actuellement encore une jambe au-dessus des autres. Est-ce que tu penses que, enfin, Théo, est-ce que tu penses que c'est peut-être l'année, alors bien sûr, à prendre avec des pincettes vu tout ce qui se passe, mais est-ce que c'est peut-être l'année du retour de Quintana cette année?
Oh bah enfin oui. Alors on peut toujours gloser sur le fait qu'il n'a pas encore rencontré des adversaires d'un très haut niveau. Parce que c'est vrai que bon, au niveau grimpeur sur la course, il y avait un Pinot, un Nibali qui sont peut-être pas forcément au meilleur de leur forme, mais malgré tout, Quintana s'est baladé sur toutes les arrivées au sommet cette année. Je pense que la seule qu'il n'a pas gagnée, ça doit être le Mont-Faron, mais il y avait une échappée devant. Il a pris 55 secondes, ouais, à peu près 50 secondes d'avance sur ses poursuivants de 2 500 km, même s'ils n'ont pas roulé à fond derrière, c'est quand même stratosphérique. Et même au niveau de, j'ai envie de dire, au niveau de son allure, on voit qu'il a l'air d'avoir minci un petit peu. Quand il attaque, il se retourne pas. Ouais, c'est un Quintana différent. Alors, est-ce que ça va être son année? Est-ce qu'on peut parler d'ambition sur le Tour de France? Là, je pense que bon, on n'est même pas à un point où on peut dire que le Tour de France aura lieu, ou dans quelles conditions il y aura, ou sur quelle préparation les coureurs pourront avoir. Mais en tout cas, ouais, Quintana a montré que ben, c'était pas le mec déclinant qui peut encore faire des top 10, mais que c'était un gars voilà, qui peut gagner sur des courses au retour d'une semaine sans problème, et qui peut, enfin, voire même la prochaine étape maintenant, c'est est-ce qu'il est encore compétitif sur les grands tours? Parce que c'était ça aussi son problème. Faut pas oublier l'an dernier sur Paris-Nice, Quintana il tient Bernal dans les montées, hein, donc il n'était pas non plus totalement à la ramasse.
Tu parlais d'allure, enfin je rebondis sur ça. C'est là où j'ai trouvé le plus impressionnant parce que oui, il gagne à la Colmian, mais il y met la manière, un peu comme sur le Ventoux. Il attaque et même, enfin, ça fait très longtemps, je pense, qu'on n'a pas vu en forme. Alors, il a certainement perdu du poids, ça y fait aussi, même quand le style, quand même, il a un sacré style, Quintana. Quand il est dans cette forme-là, dans les montées, il est quand même très impressionnant. Il a fait un gros écart, je vous, sur les autres, parce que derrière, il y a Pinot, Nibali, etc. C'est pas n'importe qui non plus. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment impressionnant et ça fait quand même plaisir de revoir Nairo Quintana à ce niveau-là et aussi fort en montagne.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a été bah, du même acabit de ce qu'on a vu en début d'année, un peu avant, sur Chalet-Renard notamment. Un Quintana assez convaincant. Du côté des sprinteurs, bah, on n'a pas eu forcément toujours la lutte à laquelle on pouvait, ou pas d'ailleurs, espérer, hein, puisque avec les bordures, certains sprints étaient finalement, comment dire, un peu particulier, hein. On a vu Nizzolo l'emporter, mais il était dans un groupe d'une quinzaine de coureurs à ce moment-là. Il a bien profité quand même du travail d'Épora pour éteindre complètement Ackermann qui semblait lessivé à la fin de l'étape. Hein, donc je parle de la deuxième étape. On a vu le jeune Ivan Garcia Cortina enfin en claquer une belle. Hein, il tournait autour depuis quelque temps. C'est une victoire qui a dû faire plaisir aussi, je pense, à pas mal de suiveurs.
Ouais, justement, enfin, rebondir sur Garcia Cortina, il a eu quand même une sacrée semaine parce qu'il est aussi deuxième, je crois, à Saint-Amand-Montrond, ou je ne sais plus sur quelle étape, je ne sais
Non,
pas
sur
quelle
l'étape
étape.
de Saint-André.
Saint-André,
Sur l'étape
derrière
de
Bonifacio.
Bonifacio, ouais.
Mais il est aussi très costaud sur l'étape des bordures aussi, il fait un
Tout à
sacré
fait.
boulot
Ouais, sur la
avant de
première
lâcher,
étape.
mais il fait quand même une sacrée semaine. Donc voilà, lui aussi, s'il y avait les Flandriennes derrière, il aurait été, je pense, un des candidats à la victoire.
Ouais, et même pour revenir sur les sprints et sur le sprint qui gagne devant Sagan, t'as dit Max qu'on n'a pas souvent eu des sprints en gros comité, et même on n'a pas eu des sprints standards où ça s'est fait un peu, où la course s'est faite un peu tranquillement et ça accélère dans les 10 derniers kilomètres, ça a quand même fait la bagarre, et je pense que ça joue sur la puissance dont disposent les sprinteurs à la fin. Et du coup, c'est pas étonnant qu'un mec qui a un gros moteur comme Garcia Cortina, il arrive surtout sur un finish qui était un peu en montée à aligner tout le monde. Et si on peut un peu parler de Peter Sagan, il a semblé très très fort dans les bordures sur l'étape, justement l'étape que Nizzolo gagne, où Thibaut Pinot perd la route Stephen Kung. On a vu Sagan se laisser décrocher pour ramener Ackermann dans le groupe devant, donc ça veut dire qu'il était très très fort. Et pourtant, sur les sprints, il semblait pas avoir sa giclée. Donc est-ce qu'on peut dire que Sagan se dit dieselise à votre avis?
Bah, c'est un peu ce qu'il a semblé montrer effectivement sur cette course, hein, où on va dire sur le plat en lui-même, il dégageait une impression de puissance toujours impressionnante, mais qu'on ne retrouvait pas pour l'emballage final en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Greg. 30 ans
C'est
déjà
vrai,
vieux?
mais enfin, c'est toujours délicat, je trouve, sur les sprints aux
Ouais.
emballages, enfin, à la fin, parce qu'on n'a jamais eu d'étape finalement, des sprints classiques, et tant mieux d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est difficile de tirer de vraies conclusions. Par exemple, pour enfin, tout ce qu'on n'a pas vu du tout, on pourra en parler aussi après. Mais j'avoue, j'ai beaucoup de mal à parler de réellement de vrais sprints ou vraiment tirer de vraies conclusions parce que. Ouais, ça a été tellement agité ou mouvementé que moi, enfin, j'ai beaucoup de mal à en tirer des conclusions, même
Ouais.
si c'est quand même un sport national sur le forum de tirer des conclusions hâtives, j'ai un petit peu de mal à le faire là.
Oui, enfin, hâtive, sachant que maintenant, là, on se dirige sur une grande, une longue période où on aura beaucoup de courses. Et à ce propos, là, sur le chat, on nous demande aussi un peu ben, qui sont les gagnants ou les perdants de cette saison qui va se retrouver de toute façon tronquée. Alors, ben, des premières choses qui viennent à l'esprit, c'est effectivement pour certains coureurs âgés qui voulaient parfaire leur palmarès, et donc je pense notamment à Philippe Gilbert, c'est sûr qu'on ne peut pas considérer comme un gros gagnant, vu qu'il pensait surtout par exemple à l'échéance Milan-San Remo, hein, il y en a d'autres comme ça. Après, les gagnants, ça pourrait être aussi ceux qui se sont blessés, et d'ailleurs certains sérieusement, et qui pourront reprendre la compétition, on l'espère, en toute sérénité. Vous avez un petit
Après,
avis?
malheureusement,
Oui?
j'aurais, enfin, je sais pas vraiment si on va parler de gagnant, vu que toutes les courses vont, enfin, vont être bouleversées, tous les calendriers sont bouleversés.
Oui.
J'imagine mal avoir un réel calendrier, que ce soit pour tous les sports, hein, pas seulement le vélo. Ça va être, je pense, un calendrier qui va être totalement bouleversé. Je sais pas quand il y aura à nouveau du vélo.
Est-ce que selon vous, on peut imaginer, vu que après tout, les équipes ont toujours leur même nombre de coureurs, hein, que certaines courses World Tour se déroulent en même temps, hein, qu'on compresse vraiment le calendrier comme ça sur la fin de saison?
Bah, on peut pas savoir, on peut pas savoir parce qu'on sait pas comment on va se régler la situation. Enfin, vraiment, moi, ça me paraît pas du domaine du possible. Enfin, surtout pour les courses par étapes, parce que c'est très lourd à organiser et que tous les pays auront d'autres priorités que de dédier des forces de police, du personnel médical pour organiser des courses, même dans quelques mois. Mais pour revenir sur la question des gagnants et des perdants, si la course saison cycliste reprend un moment, parce que c'est pas sûr, hein, enfin, on l'espère, mais c'est pas sûr, bah, les coureurs qui ont l'habitude de rentrer sur des compètes et d'être compétitifs sans faire de course, ça peut les avantager. Et là, on pense à Quintana qui descend de ses montagnes, qui a l'habitude de faire ça, alors que des gars comme Valverde qui courent toute la saison, bon, ça reste d'être plus compliqué pour eux, quoi. Mais j'ai envie de dire que le grand perdant, c'est Remco, qui allait gagner le Tirreno-Adriatico et gagner le Giro, donc enfin, lui, il doit être un peu dégoûté.
te sens un peu en mode trollage là quand même
Un petit peu taquin,
hein,
Théo.
par rapport à Remco.
Ouais,
Vraiment tu
il aurait pu se dépêcher pour trouver un vaccin, mais je suis sûr qu'il en trouvera un bientôt.
Ma foi, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire, hein, sur ce Paris-Nice. On n'est pas revenu sur la victoire de Bonifacio. Là, je vois que ça en a parlé aussi pas mal sur le chat. Il gagne quand
Tiens.
même avec 2-3 vélos d'avance. C'est vrai que ça a dû
Oui,
faire.
c'est bien que tu le dises, Max.
Ça fait du bien
Au
à
cyclisme
peu.
italien
Oui,
qui.
voilà,
Deux victoires cette semaine.
Deux victoires pour le cyclisme italien.
Malgré Viviani, les sprinteurs étaient plutôt en forme, effectivement.
Et c'est plus que les Colombiens, parce que.
Oui, enfin,
Il n'y a que Quintana.
on
Alors,
a vu quand
ouais,
même
on n'a
un
pas.
Sergio Higuita très entreprenant aussi
Et,
quand
ah oui,
remarque
d'accord,
ça
oui,
dure.
je voulais. Ah, voilà, c'est ça dont je voulais parler. Finalement, Higuita, j'ai presque trouvé plus impressionnant sur le contre-la-montre que sur la montée de la Colmian.
Et ouais, c'est un peu rafraîchissant. Enfin, ça a l'air d'être un coureur très intelligent. Il sent bien les coups dans les bordures. Il a un bon punch. Il roule bien en contre-la-montre, mais il écrase, pour l'instant, il écrase pas tout en montagne. C'était un peu une crainte qu'on assiste à un nouveau monstre, un nouveau phénomène. Et c'est plutôt bien d'avoir des coureurs déjà qui sortent un peu des préjugés, et combien qui sont forcément des grimpeurs exceptionnels. Et un coureur qui va pouvoir gagner du temps sur des terrains vallonnés et en perdre en haute montagne. C'est toujours bien ce type de profil dans les grands tours.
À voir. Enfin bon, après, il grimpe pas si mal quand même, hein. C'est sûr qu'il n'a pas grimpé comme un Quintana, mais bon, il était quand même un peu juste derrière, hein, finalement. N'oublions pas qu'il a encore 22 ans. Mais il a un profil un peu valverdien. Je sais que dans ses déclarations, il a souvent dit qu'il était là pour tenter de marquer l'histoire du cyclisme. Donc il est ambitieux. À voir, effectivement, pour les années à venir. Bien, bon, bah, écoutez, là, je crois qu'effectivement, on peut clore le chapitre de Paris-Nice. Nous, pour l'avenir, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est qu'on tentera de revenir à un rythme, alors pas forcément hebdomadaire, pas forcément non plus pour une sortie du dimanche. On fera
On
au
essaiera
mieux.
de trouver des choses, voilà,
Voilà.
pour meubler, pour suivre le forum, suivre les réseaux sociaux.
On vous
On va
tiendra.
essayer,
Voilà.
on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, ce qui va être décidé, mais il est possible qu'on soit tous confinés, donc peut-être qu'on aura un peu plus de temps et qu'on essaiera de le passer ensemble, hein, comme on l'a dit au début, pour se changer les idées. Donc reste à l'écoute. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à en parler sur le forum.
Oui, n'hésitez pas à proposer ou dans les commentaires, hein, des idées de pastilles. Nous, on va essayer de faire des choses, hein, plus ou moins, on va dire, relevant de l'histoire du cyclisme également. Et puis des émissions thématiques, un peu comme on faisait durant l'intersaison, quitte à revenir justement sur les premiers bilans aussi de l'année. Voilà. Bon, bien écoutez, d'ici là, je crois que jamais cette phrase n'aura été aussi lourde de sens. D'ici là, donc, prenez soin de vous, hein, vraiment. On essaie de se retrouver très très bientôt et portez-vous le mieux possible. À très bientôt. Au revoir.
Salut
Au
tout le
revoir.
monde, bon courage!